Amen. Dieu est bon, hein? Il prend soin de nous. Quelle bénédiction c'est ce matin d'assister à la présentation au Seigneur de ces nombreux petits poupons qui vont venir occuper l'espace dans la garderie et puis au préscolaire et puis au primaire et puis qui, à un moment donné, iront avec les ados aussi et qui un jour voudront se marier et puis voilà, c'est ça, seront là aussi. C'est une bénédiction de voir le temps passer et d'avoir Dieu démontrer encore et encore sa fidélité. Ce matin, j'aimerais vous parler de quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Lors de la dernière série de messages, les bienfaits de la croix, pasteur Jean-Frédéric a mentionné plusieurs bienfaits de la croix, bien sûr, et l'un d'entre eux, c'était la réconciliation. Et en parlant de la réconciliation, il avait dit, « À cause de la réconciliation, nous sommes déclarés amis de Dieu. » J'aimerais bien vous parler ce matin de quelle sorte d'ami il est. Pendant le mois de la reconnaissance, ce mois-ci, au mois d'octobre, je pense que c'est une bonne idée d'être reconnaissant pour le privilège immérité que nous avons de pouvoir être amis de Dieu. C'est pas n'importe qui, hein? Être ami de Dieu, être ami avec Jésus. Nous sommes appelés à développer et à approfondir une relation d'amitié avec Jésus. Quelle sorte d'ami Jésus est-il pour nous? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 24, nous lisons, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Il peut y avoir bien des connaissances autour de nous, mais un véritable ami, c'est différent. Combien qu'il y en a qui savent qu'un ami et une connaissance, c'est pas pareil? Connaissance, c'est des gens qu'on salue, qu'on est content de voir, peut-être. On échange quelques propos avec eux, mais ça s'arrête peut-être là, juste aux présentations ou aux simplicités de communication relativement légères où on parle de la température et tout ça, etc. As-tu changé tes pneus? Genre, tu sais. Mais un véritable ami, c'est quelqu'un où est-ce qu'on va peut-être ouvrir plus son cœur sur les véritables défis que nous expérimentons dans la vie ou des grandes joies que nous pouvons avoir. À un véritable ami, on va oser dire qu'on s'est réjoui lorsqu'on a su que le bébé qui s'en venait, c'était un petit garçon. Ou au contraire, on va peut-être oser dire qu'on ne s'est pas réjoui parce que c'était un garçon. Et ça, c'est intéressant qu'un après l'autre, hein? C'est ce qu'on a entendu ce matin. Peu importe. Un véritable ami, c'est quelqu'un à qui on va ouvrir son cœur, à qui on va véritablement parler. Et la Bible nous parle dans ce passage-là ici d'un véritable ami, de quelqu'un qui est vraiment là pour vrai, pas juste pour l'apparence ou la surface, là, mais véritablement, en profondeur, en sincérité. Un véritable ami. Jésus parlait à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 13, et il disait... Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Jésus disait ça à ses disciples à l'époque et il peut le dire encore aux disciples aujourd'hui. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas au courant des affaires de son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous êtes mes amis, je vous appelle amis. Alors nous sommes amis avec Jésus, nous sommes amis de Jésus. Et c'est un ami qui est là, qui est réel et qui est présent pour chacun d'entre nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle de la relation de proximité qu'il veut avoir avec ses enfants. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, verset 2, nous lisons « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi ». Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour son ami. Quelqu'un qui est là et qui est présent et qui reste présent pour lui, peu importe, dans les bons et dans les mauvais jours, dans les saisons de réjouissance et puis dans les saisons de tristesse. Et dans ce passage-là, ici, c'est intéressant que Dieu parle à son peuple et leur dit « Quand tu passeras par les eaux ». je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas parce que tu marcheras. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Je serai avec toi. C'est intéressant ici que Dieu ne dit pas, si un jour il devait arriver par malheur de vivre une difficulté, de devoir traverser des eaux profondes ou de traverser des fleuves ou marcher à travers le feu. Il n'y a pas de si, là, il y a plutôt des quand. La vie ne fait pas de cadeau à personne. Et on ne voit pas ça ce matin, alors qu'on est tous souriants, de bonne humeur, dans une belle atmosphère où on a loué Dieu, où on a entendu des témoignages de familles qui vivent des grands moments de réjouissance. Mais avec ces moments de réjouissance-là, vient aussi d'autres moments. Il arrive parfois que les nuits sont plus longues. Et que des fois, la communication entre le bébé et le parent n'est pas toujours claire. Pourquoi qu'il pleure, puis pourquoi qu'il n'arrête pas de pleurer? Pourquoi que quand je le brasse de telle manière d'habitude, ça marche, puis là, ça marche pas? C'est-tu les dents? C'est-tu des coliques? C'est-tu une otite? Qu'est-ce que c'est? Les réponses ne viennent pas toujours facilement non plus. Mais la Bible nous dit ici dans ce passage-là, quand tu vas traverser des moments plus difficiles, sache qu'il y a un ami fidèle qui est là et qui est présent. Et les difficultés, écoute, il y a pire que juste passer une nuit difficile avec un bébé. Il y a des affaires pas mal pires que ça dans la vie. Il y a des gens sur la face de la terre qui traversent des moments vraiment pénibles et difficiles. Nous autres, il n'y a pas de bombe qui nous tombe sur la tête. Ou il n'y a pas de bombe qui éclate dans notre entourage. Oh, il y aura des flocons qui viendront dans quelques semaines. Mais, c'est ça. Quand vous verrez les flocons tomber, rappelez-vous qu'ailleurs, il y a d'autres choses qui tombent. Et vous allez rendre grâce à Dieu pour la légèreté des flocons. Bien que quand ils s'ajoutent, ils s'accumulent, la légèreté peut devenir pas mal plus lourde. Toujours est-il que quand il neigera, sache que Dieu sera avec toi. Un petit peu plus loin, dans le chapitre 43 encore du livre d'Ésaïe, ça dit « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. » Dieu promet ici « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Il est présent, il est là. Quel ami nous avons dans la personne de Dieu. Il est là. Il est présent. Il est un ami véritable. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, verset 33, Jésus parlant à ses disciples dit, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » En Jésus-Christ, nous avons un ami qui est véritable, qui est vrai, qui est sincère. Nous avons un ami qui est présent, qui est là, mais nous avons aussi un ami qui est puissant. J'ai vaincu. Ça nous parle de puissance, ça nous parle d'autorité. Et encore une fois ici, ça ne nous dit pas que s'il vous arrivait de vivre parfois des tribulations dans la vie, non, non, vous aurez à vivre. Hein? Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Non seulement il y aura des afflictions, mais en plus, il rajoute, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Avoir un ami fidèle, un ami fiable à ses côtés, ça brise l'impression parfois insupportable de solitude. De se sentir seul dans notre trouble, dans nos problèmes, dans notre histoire, dans notre compréhension de ce qui est en train de se produire ou de l'absence de ce qui est en train de se produire. On peut se sentir seul même lorsqu'on est entouré. C'est un sentiment tellement réel. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qui sont autour de nous. Ça dépend plutôt de la perception qu'on a des relations que nous avons avec les autres qui nous entourent. L'absence d'amis. On peut se sentir seul. Mais en Jésus, nous avons un ami véritable. Nous avons un ami présent. Nous avons un ami puissant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Regardez votre voisin. Puis dites-lui que tu as un ami fidèle. Tout le monde sait que vous avez un ami fidèle. Combien il y en a qui savent que quel ami fidèle et tendre, c'est un hymne. C'est un hymne qui est chanté depuis environ une centaine d'années dans l'Église de Jésus-Christ. Et vous savez, derrière les hymnes que nous aimons chanter et dont les paroles viennent nous toucher particulièrement, nous rejoignent tellement, il y a souvent des histoires de tragédie et de triomphe. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, la vie n'est pas parfaite pour personne. Il y a des déceptions dans la vie, il y a des revers, des tragédies qui peuvent nous surprendre. Et cela n'épargne pas les chrétiens, même les bons chrétiens, ceux qui sont inspirants et ceux qui vivent une relation personnelle vivante avec Jésus-Christ. J'aimerais vous parler d'un de ces bels exemples-là ici, l'auteur de « Quel ami fidèle et tendre ». Il s'appelle Joseph M. Scriven. Joseph est né le 10 septembre 1819, ça fait déjà un moment. Il est décédé le 10 août 1886. Joseph M. Scriven est né à Benbridge, en Irlande du Nord. Il a grandi dans une famille prospère. Il avait 24-25 ans lorsque, en amour, il planifiait se marier. Or, la veille du mariage, sa fiancée tomba du cheval qui la transportait en traversant un pont. Et elle se noya lorsqu'elle est tombée dans la rivière Ban lors d'un accident tragique. La veille. Comment tu te sens? Le cœur brisé, dévasté. Pourquoi ça m'arrive à moi? Le cœur était brisé, Joseph donc a décidé de quitter son pays natal pour commencer une nouvelle vie au Canada, dans la région de Woodstock en Ontario. Ça, c'est à quelque part entre Hamilton et London, si vous visualisez un petit peu la géographie ontarienne. Et alors, il s'installe dans la région de Woodstock et puis il s'est trouvé un travail comme enseignant. Quelques années plus tard, il tomba à nouveau en amour. Et à 39 ans, il se fiança à Elisa Catherine Roche. Mais encore une fois, les espoirs de Joseph volèrent en éclats lorsque Elisa contracta la tuberculose et en mourut avant que le mariage n'ait lieu. Deux fois. En août 1860. Ouais, parce que c'est ça, il a pris du temps avant de se fiancer à nouveau, là. Même si on peut difficilement imaginer tout le tourment qu'il vivait, l'histoire nous dit que sa foi en Dieu l'a soutenu pendant tout ce temps-là. Peu après le décès d'Elisa, il a commencé à prêcher dans une petite église évangélique, une église baptiste dans la région de Woodstock. Et à partir de ce moment-là, Scriven a développé un style de vie qui était totalement différent. Il a pris le sermon sur la montagne littéralement. Et a commencé à donner à quiconque lui demandait, à ne pas se détourner de celui qui voulait lui emprunter. Il ne s'est jamais marié, mais il a passé le reste de sa vie en donnant tout son temps, son argent et même ses vêtements pour venir en aide aux moins fortunés et répandre l'amour et la compassion de Jésus partout où il allait. Joseph Scriven était connu dans la région de Woodstock en Ontario comme en particulier pour quelqu'un qui transportait tout le temps une sciotte, prêt à être utilisé pour couper du bois de chauffage pour les gens en besoin. Ça ne serait pas tout à fait adapté comme façon d'évangélisation aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque. À peu près au même moment que Elisa est décédée, Joseph a reçu des nouvelles de l'Irlande. Sa mère était malade. Et comme il ne pouvait pas se payer un voyage en Irlande pour la voir et l'encourager, il a écrit une lettre de consolation dans laquelle il a inclus un de ses nombreux poèmes. « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. » En réalisant à quel point il a vécu d'énormes déceptions et souffrances, on est un peu plus en mesure d'apprécier la profondeur des paroles de cet hymne. Pas étonnant qu'il ait été depuis plus de 100 ans la source d'encouragement et d'espoir pour des millions de croyants à travers la planète, à travers plein de personnes. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. J'ai demandé à un frère de l'Assemblée il y a quelques mois déjà de dire, lorsque tu entends « quel ami fidèle et tendre », à quoi tu penses? Qu'est-ce qui te revient? Et le frère m'a partagé l'histoire suivante. Il disait, il y a bientôt, ce n'est pas une histoire aussi triste que Joseph M. Scriven, mais c'est une histoire vraie, par une vraie personne qui est présente ici ce matin. Il nous dit, il y a bientôt une vingtaine d'années, vers la fin de mon parcours scolaire au secondaire, donc il n'y a pas 60 ans, mes frères et moi faisions face à un sérieux problème financier dû au fait que la seule personne qui nous prenait en charge avait des défis familiaux. Il y avait plusieurs personnes dans la maisonnée, là. Personnellement, dit-il, je vivais cette situation très difficilement et mes notes en classe chutaient à vue d'œil. Je me sentais perdu et impuissant face au fait de devoir sauter certains repas par faute de moyens. Je savais que j'allais couler cette année-là. Et sans surprise, j'ai échoué l'examen national qui clôturait le secondaire. Et alors que je me sentais abandonné, dit-il, le refrain de « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ » sonnait en continu au fond de mon cœur. Et j'avais la conviction que Jésus ne m'avait pas abandonné. Dans les mois qui ont suivi, éventuellement, il a déménagé dans un autre pays. Et puis, il a poursuivi ses études et a réussi ses études à ce moment-là. Plus, le déménagement l'a conduit aussi dans un autre environnement où est-ce qu'il y avait bien sûr d'autres personnes qui étaient là. Et c'est là qu'il a rencontré une jolie jeune fille qui est devenue aujourd'hui son épouse. Ils ont 4 enfants aujourd'hui. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. En tout temps, malgré bien des afflictions et des tribulations, nous pouvons assurément nous tourner vers cet ami fidèle et tendre parce qu'il est toujours là. Il est fort probable que ça n'arrivera pas à personne que sa fiancée, la veille de son mariage, va tomber de son cheval et puis se noyer dans la rivière en voulant traverser le pont. Ça arrive à peu près plus aujourd'hui. Mais il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut traverser et des tragédies qu'on peut traverser ou des craintes que nous pouvons avoir à toutes sortes d'égards. Dans Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, nous lisons « Que votre conduite ne soit pas guidé par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes? » Contentez-vous, parce que Dieu a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Et dans le monde dans lequel on vit, on veut toujours avoir plus. Plus, puis plus gros, puis plus souvent, et de meilleure qualité. Hey, on veut toujours plus, 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 plus. Et la Bible nous dit, dans le fond, que la recette pour le bonheur, c'est simplement le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Parce que Dieu a promis, je ne te laisserai pas. Même si ce n'est pas assez pour être capable d'accumuler pour les 60 prochaines années qui sont devant vous, Dieu a promis, il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. On n'a pas besoin d'avoir de crainte par rapport à nos capacités financières ou à la façon dont on va pouvoir survivre dans telle ou telle circonstance. Parce que Jésus est là, on peut surmonter la peur de manquer ou la peur du rejet peut-être à cause de nos imperfections. Parce qu'il nous a promis qu'il était pour être là et rester là avec nous. Quel ami fidèle et tendre nous avons, même lorsque notre cœur peut se remplir de peur, lorsqu'on peut avoir toutes sortes de craintes et même des doutes. Dans Jean chapitre 20, au verset 24, nous lisons, après la résurrection de Jésus, l'histoire de Thomas, hein, L'un des 12, Thomas appelé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Alors les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison, et cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint là au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas en particulier, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Si on veut être honnête, il y a parfois des moments dans notre vie où est-ce que notre foi peut être mise au défi, peut être ébranlée. Et peut sembler bien faible. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que même à Thomas, qui était celui qui semblait douter le plus parmi les autres disciples, Jésus, alors qu'il se tint là au milieu d'eux, s'adresse à lui directement. Puis lui dit, voilà, vois mes mains, place ton doigt ici, avance, puis mets-la dans mon côté. L'ami fidèle et tendre ne nous jugera pas, ne nous condamnera pas, mais viendra plutôt nous rassurer qu'il est là. Où est Dieu alors que toutes les difficultés s'accumulent? Où est Dieu lorsque l'aide ne vient pas? Lorsque l'attente devient interminable? Lorsque les impossibilités semblent être toujours là devant nous? Et puis on crie à Dieu et on lui demande, mais ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait des fois. Ça ne va jamais aussi vite qu'on veut. Ça ne va jamais aussi vite qu'on veut et ça ne va jamais avec autant d'ampleur qu'on aurait rêvé ou pensé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si on a perdu espoir, Jésus est encore là. Et il ne nous laisse pas, il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Après le récit de la résurrection, la Bible nous dit qu'il y avait des disciples de Jésus qui se rendaient vers une ville qui s'appelait Emmaüs. Vous connaissez l'histoire? Ils partent et ils marchent, puis ils discutent ensemble. Et au verset 15 de Luc 24, nous lisons, « Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Ils s'inquiètent, ils sont attristés. Jésus est mort. Ils l'ont mis dans le tombeau. Et puis voilà, c'est ça, c'est fini maintenant, tout est fini. Ça ne peut pas être plus final que la mort. » Mais pendant qu'ils parlent de ça, alors qu'ils sont en route, Jésus s'approche, Jésus lui-même s'approche et les accompagne. Alors qu'on peut penser que tout est fini, si on ouvre nos yeux, peut-être qu'on va s'apercevoir que Jésus est là tout près. Et peut-être que si on remarque assez longtemps, on va s'apercevoir que Jésus est prêt à marcher avec nous et à poursuivre la route avec nous. Au verset 21, les disciples parlent à Jésus qui leur pose la question, « De quoi vous discutiez? » Ben, tiens, verset 21, « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. » On avait bien espéré, on avait bien confiance en lui, mais on a été profondément désappointé. Jésus est là. Il est avec eux. Et dans le désespoir ou dans la déception profonde que les choses n'ont pas tourné comme ils avaient espéré, voulu ou rêvé, Jésus est là puis écoute. Alors qu'ils avancent, ils arrivent à Emmaüs et puis finalement la journée s'avance et puis la Bible nous dit au verset 29 qu'ils retinrent Jésus avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois que le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Alors que les disciples supplient « Hey, écoute, c'est bon la conversation qu'on a ensemble, ça nous fait du bien. » Un peu plus tard, ils vont dire ensemble notre cœur « Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ?» Ils lui disent, « Reste donc avec nous. » Et à cette invitation-là, Jésus entra pour rester avec eux. L'ami fidèle et tendre, va répondre à notre invitation. L'amour fidèle et tendre va vouloir rester avec nous. L'amour fidèle et tendre sera là. Même lorsque tout espoir semble disparu, l'ami fidèle et tendre veut encore rester avec nous. Lorsque tout est perdu, lorsque tout est fini, il est là, il est encore là. Est-ce que je peux inviter les musiciens de revenir, s'il vous plaît? Ce matin, sans vous étonner, le premier chant qu'on va faire ensemble, c'est « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Et alors que nous chanterons ces mots écrits par Joseph Scriven, en fait, il les a écrits en anglais, bien sûr, et ça, c'est la version française, on peut se rappeler ou on peut se consoler que nous avons une amitié éternelle avec Jésus-Christ. Que cet homme-là qui a perdu deux fois des fiancés, d'une façon tragique. L'histoire ne nous dit pas s'il y a eu une explication qu'il a reçue de la part de Dieu à un moment donné sur pourquoi ces choses-là sont arrivées. Peut-être pas. Même s'il n'y a peut-être jamais eu de réponse à tout ça, nous savons que malgré tout, il est possible donc de demeurer fidèle à Jésus. Parce qu'il est demeuré fidèle à Jésus, parce que Jésus était avec lui malgré tout cela. Nous pouvons savoir qu'en Jésus, nous avons la consolation et la paix lorsque on se tourne vers lui dans la prière. Alors ce matin, nous pouvons lui amener nos fardeaux. Nous pouvons lui amener tout ce qui pèse sur nos cœurs, nos déceptions, nos frustrations, nos incompréhensions, parce qu'il est toujours, en tout temps et dans toutes circonstances, l'ami fidèle, toujours prêt à entendre, à répondre à notre cri. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette réalité bénie que nous savons que tu es un ami fidèle et tendre et que tu es quelqu'un qui est là prêt à nous rassurer aujourd'hui parce que tu n'as pas changé, parce que tu demeures encore le même. Et nous te remercions qu'à travers les tragédies, à travers les déceptions, à travers les frustrations de la vie, à travers les délais interminables, notre foi peut être bousculée. Nos attentes peuvent être déçues. Mais Seigneur, nous comprenons ce matin que malgré tout cela, tu es encore là. Et tu veux encore nous témoigner de ta présence et de ta grâce. Alléluia. Alors qu'on va chanter dans un moment qu'à l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, j'aimerais juste faire un appel ce matin pour tous ceux et celles qui ont besoin de sentir qu'ils ont un ami proche d'eux. Vous savez quelle est votre tragédie? Quel est le délai interminable auquel vous faites face? Quelle est la situation impossible dans laquelle vous vous trouvez? Vous avez besoin de sentir que vous avez un ami fidèle? Prenez juste le temps de vous avancer ce matin, on va juste prier ensemble. Peut-être que vous vous dites, oui, mais c'est tellement difficile mon affaire, c'est tellement sec, c'est tellement, il n'y a plus de vie là-dedans, il n'y a plus rien. Je veux juste vous dire que même dans les moments difficiles, dans les moments qu'on appelle la vallée, quand on est dans des difficultés et qu'il n'y a pas rien qui semble se passer, Dieu est encore bon. Dieu n'a pas changé. Dieu est encore fidèle et véritable. Peut-être que vous vous dites ce matin, oui, mais moi, je suis trop éloigné pour que Dieu puisse me pardonner maintenant. J'ai trop accumulé de choses, de désobéissance. Je l'ai déçu trop de fois. C'est fini. Non, on ne peut jamais être trop éloigné. Nous ne sommes jamais trop loin pour que Jésus ne nous entende lorsqu'on fait appel à lui. Et ce matin, même si vous vous sentez bien loin, sentez-vous à l'aise de vous avancer. Il saura entendre le cri de votre cœur ce matin. Il saura vous voir et vous entendre, même si vous vous sentez bien loin ce matin. Chantons-le ensemble et sentez-vous à l'aise de vous avancer. On va prier ensemble ce matin.